on lit que la compassion, quand le Larousse, est un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Bon, vous n'êtes pas là pour écouter le Larousse, mais c'est pourquoi, pour mieux comprendre ce qu'est la compassion, je vous propose d'ouvrir la Bible. Et puis je vous propose de l'ouvrir en Matthieu 20, à partir du verset 29 et jusqu'au verset 34. Matthieu 20, verset 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils criaient plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Ah là, c'est fini. Pour nous ce matin, ce que ce texte veut nous dire d'une façon tout à fait particulière, c'est que Jésus lui-même a été saisi de compassion. D'autres traductions, peut-être dans votre Bible, diront « ému de compassion ». Dans ce texte, nous comprenons que la compassion répond à un besoin réel. Deux hommes sont aveugles et ils aimeraient voir. Ils souffrent et ils ont clairement manifesté leurs besoins, un petit peu à la Larousse. « Seigneur, aie pitié de nous !» Jésus comprend ce besoin. Tous voient ce besoin. Tous voient que ces deux hommes sont aveugles. Tous le comprennent implicitement aussi. Mais seul Jésus va y apporter une réponse. Jésus n'a jamais fermé les yeux, c'est le cas de le dire. Il n'a jamais fermé les yeux devant la souffrance. Jamais. Jamais il a fermé les yeux devant la souffrance des hommes. Il ne l'a jamais considéré, cette souffrance, sans vouloir y répondre d'une façon particulière. Par exemple, en Matthieu 14, quand, je cite la Bible, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et on eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvèrent. Un autre passage, en Matthieu 15, verset 32, Jésus dira « J'ai compassion de cette foule, car voilà trois jours qu'ils restent avec moi et n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à Jean, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Et cette compassion a donné naissance à cette deuxième multiplication de pain et de poisson. En continuant plus loin, en Luc 7, le verset 13, Jésus croise un cortège funèbre, le fils unique d'une veuve est décédé, et une foule immense l'accompagne pour enterrer cet enfant. La mère est anéantie, elle n'a plus de soutien financier, plus de famille, plus rien. Et il est dit, le Seigneur la vit, il eut compassion d'elle et il lui dit, ne pleure pas. Ensuite Jésus touche le cercueil et l'enfant est ressuscité. Je pourrais continuer avec d'autres textes où Jésus voit la foule et il a compassion et il dit « Mais je suis ému de compassion parce que je vois une foule comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et je pourrais encore multiplier des dizaines de passages dans les évangiles où nous rendons compte que Jésus était un homme qui avait compassion. Mais vous avez bien compris ces différentes phases de la compassion. Il y a un besoin physique, un besoin spirituel, un besoin moral. Jésus le voit. Et quelque part, il y a quelque chose qui se passe entre la personne, parce que ce n'est pas un besoin que Jésus voit, c'est une personne. Et il y a cet amour de Jésus qui est parfait pour ces gens. Et puis ensuite, il va comprendre la souffrance, il va souffrir avec, c'est le sens de compassion. Et puis, il va enfin agir en répondant aux besoins. Mais c'est quoi vraiment la compassion ? Parce que si je vous donnais un moment pour me dire, tiens, qu'est-ce que c'est la compassion ? On aurait plus ou moins peut-être les mêmes réalités, mais pour pouvoir faire mentir un petit peu le dictionnaire Larousse, la compassion, ce n'est pas de la pitié. Ce n'est pas du tout de la pitié. La pitié, c'est s'apitoyer sur le sort de quelqu'un. La pitié, c'est répondre à une détresse parce que c'est politiquement correct, parce que ça se fait. La pitié, c'est dire de belles paroles pour calmer sa conscience à quelqu'un qui peut souffrir. Ça, c'est la pitié. La pitié, c'est achever quelqu'un qui souffre. La compassion, c'est autre chose. Dans l'Ancien Testament, quand il est parlé de compassion, l'hébreu utilise le mot « racham », qui veut dire « entraille » et qui veut dire même « matrice ». Donc c'est quelque chose de très féminin. Et quand Dieu parle qu'il est compatissant dans l'Ancien Testament, l'hébreu dit le mot « matriciel ». Dans le Nouveau Testament, ce mot « compassion » est repris en grec avec essentiellement le mot, attention parce que c'est un mot à rallonge, splagchninzomai, s'il vous plaît, qui signifie littéralement, c'est ça qui est intéressant, avoir les entrailles retournées. La compassion, c'est avoir les entrailles, la matrice retournée. Quelque chose qui se passe, pardonnez-moi l'expression, mais il y a les tripes qui remuent en nous. Ça, c'est la compassion. Ce n'est pas que le domaine du cœur qui est touché, mais c'est le domaine du corps aussi, qui est tout chamboulé par quelque chose qui est visible à nos yeux. Et j'ai essayé de trouver une définition, j'ai aussi prié pour ça, donc ce n'est pas une définition qui peut se mettre à côté de la Bible, mais elle vaut ce qu'elle vaut, mais vous la recevrez en tant que telle. La compassion, ainsi, c'est comme une souffrance de l'âme, mais aussi une souffrance du corps, face à un besoin particulier d'une personne. Et ce besoin ne nous concerne absolument pas. Mais on s'en fiche de son besoin, franchement. Ça ne nous empêche pas de vivre. Mais par contre, je suis directement confronté à ce besoin, parce que l'amour de Dieu habite en moi. Et quand l'amour de Dieu habite en moi et que je suis confronté à un besoin et que ça se chaboule dans mon organisme comme si j'avais compassion, eh bien ça va déboucher sur quelque chose qui va être un résultat pratique de cet amour pour ce prochain qui souffre. Et Jésus a été saisi de compassion. Ça veut dire que ses entrailles ont été remuées. Ça veut dire que ses tripes ont été bouleversées. Ah, Jésus ! Vous me direz, oui, mais ça c'est Jésus. Mais nous, on n'est pas Jésus. C'est vrai ça. Est-ce que ce n'est pas très illusoire de pouvoir se comparer à lui, puis revendiquer les mêmes réalités ? Est-ce que tu ne vas quand même pas nous demander d'avoir compassion comme Jésus ? Voyons ce que la Bible nous dit, et en Pierre 3, le verset 8, la Bible elle-même nous donne la réponse, et voici ce qu'il est dit, « Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Soyez pleins d'amour fraternel, pleins de compassion, plein d'humilité. Dieu lui-même, par sa parole, nous apprend que oui, nous aussi, nous sommes appelés à être remplis de compassion. Et de plus, ce qui est intéressant, c'est que ce verset reprend point par point ce que Jésus a vécu. Il était rempli d'amour pour son prochain, soyez rempli d'amour. Il était rempli de compassion, soyez rempli de compassion. Et puis ensuite, il est dit qu'il faut aussi être rempli d'humilité. Ça veut dire quoi être rempli d'humilité ? Ça veut dire s'oublier soi-même pour pouvoir répondre aux besoins. Et dans les fêtes, ça veut dire ceci, comme Jésus, j'aime mon prochain, je vois son besoin. Ensuite, j'en ai compassion et je veux l'aider. Enfin, j'agis, je m'efface devant lui, je deviens son serviteur. Voilà ce que c'est la compassion. Alors, prenons des exemples d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont eu de la compassion. Puis c'est tellement facile de dire oui, mais dans ce contexte-là, cet homme, cette femme a eu compassion, mais il faut contextualiser le tout, il faut penser un petit peu. Alors je ne vais pas prendre d'exemple classique, je vais prendre des paraboles. Alain a commencé avec une parabole au début de ce culte, je vais continuer avec une parabole. Des paraboles qui sont tellement connues qu'elles nous sortent par les oreilles, et pourtant, on va les y faire rentrer pour que ça descende dans notre cœur. D'abord, Luc, au chapitre 10, à partir du verset 25, et j'aimerais lire avec vous la parabole du bon samaritain. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et dit pour mettre Jésus à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Puis c'était comme au début. Voilà, la prédication est finie. Mais il voulut se justifier et dit à Jésus, « Mais c'est qui mon prochain ?» Alors des fois, quand on veut poser des questions, des fois, il vaut mieux se taire parce qu'on en ramasse plein la figure. Et voici ce que Jésus dit, il reprit la parole et il dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de lui, est-ce que tu dépenseras en plus ? Je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Quand le Samaritain, cet étranger détesté des Juifs, s'est approché du bestiaire, c'était pas pour l'achever. C'était pas de la pitié, il était à moitié mort. Ah, je suis en train de mourir, aie pitié de moi. Bon, ben, je t'achève. J'ai pitié. Non, la Bible nous dit qu'il en a eu compassion. Quelque chose s'est passé dans son cœur et dans ses entrailles. Il était remué en voyant cet homme, même un étranger, même, je dirais, un ennemi. Et il est devenu son serviteur. Oui, il est devenu son serviteur. Il l'a soigné, il l'a transporté dans une hôtellerie qui faisait aussi office de lieu de soins. Il l'a veillé durant toute une nuit, il a payé la pension complète pendant deux jours, et il dit à l'hôtelier qu'il allait revenir pour payer en plus si sa situation le nécessitait. Waouh ! Ça, c'est la compassion. Et ainsi, Jésus dira à ce docteur de la loi, fais la même chose. Et ainsi, Jésus nous dit aujourd'hui, à chacun de nous, fait la même chose. Le docteur de la loi a bien compris que l'amour de Dieu en nous devait produire quelque chose de concret. Et ne rien faire, comme les deux premiers religieux qui ont passé outre, démontre bien le désintérêt qu'on peut avoir face à la souffrance. Même nous, même chrétiens, même au XXIe siècle, on peut se désintéresser tellement facilement de la souffrance. Mais quand on aime avec l'amour de Dieu, alors ça se voit. Et si on continue le texte, il nous donne un autre synonyme de compassion, il nous parle de miséricorde. Et quand Jésus demande à ce docteur de la loi lequel a été le prochain, il dira « c'est celui qui a exercé la miséricorde ». La miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde ? On peut dire que c'est un synonyme de compassion. Une vieille chrétienne, maintenant décédée, qui était une de mes amies, m'avait dit un jour que la miséricorde, c'est Dieu qui me tend une corde dans ma misère. Elle me dit, cette corde, c'est Jésus. Pour qu'à mon tour, je puisse tendre une corde à celui que je verrai dans la misère. Et ça, ça ne m'a jamais quitté, je n'ai jamais oublié. Je leur dis pour le plaisir, la miséricorde, c'est Dieu qui me tend une corde dans ma misère pour qu'à mon tour, je puisse tendre aussi une corde à celui que je verrai dans la misère. Et si j'ai compris ça, j'ai compris la compassion. Ensuite, j'aimerais vous parler de la parabole du fils prodigue. Alors ça se trouve dans Luc 15, ceux qui sont puristes pourront la lire dans les versets 11 à 32. Je ne vais pas la lire, mais je vais simplement, si vous me permettez, la raconter rapidement pour qu'on puisse saisir l'esprit. Cette deuxième parabole, c'est l'histoire d'un homme qui a deux fils. Le plus jeune exige sa part d'héritage pour aller la dépenser dans les plaisirs de ce monde. Voilà, il l'a fait. Et un jour, il n'a plus d'argent, il est dans la misère, il est dans la pauvreté. Et il commence à réfléchir, preuve que souvent, c'est quand on a des soucis qu'on commence à réfléchir. Tant qu'on a des sous, on dépense. Puis quand on n'a plus rien, on se réfléchit. Et il réfléchit et il réalise qu'il a déçu Dieu, ce qui est bien, et qu'il a aussi déçu son père. En fait, il l'a mis dans une certaine difficulté financière. Et il décide de rentrer à la maison. On demande à son père non plus le statut de fils, mais simplement un statut d'employé de maison. Et puis, au verset 20, on y trouve ce passage qui dit « Cet enfant, ce jeune se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Et moi, ça me tire les larmes presque en voyant ce père qui a perdu son fils, qu'il le voit. Et puis, il y a ses entrailles. Mon fils qui revient, il s'en fiche de ce qu'il a fait. Son amour, il est inconditionnel. Il s'en fiche de la vie de patachon qu'il a vécue. Il s'en fiche qu'il était traîné avec toutes les prostituées du coin. Son fils revient. Et quelque chose dans son cœur, dans ses entrailles de père, se met à remuer. Et il court et il l'embrasse. Bien sûr, le fils avait tous les torts. Bien sûr, il aurait pu le rejeter, ce père qui avait vu son fils gaspiller l'héritage familial. Mais il l'aimait. Il aimait son fils. Et cet amour inconditionnel produit quelque chose d'extraordinaire quand il reconnaît dans ce mendiant pouilleux et avec des haillons son fils. Il court et il est en train de vivre une réconciliation extraordinaire, celle d'un papa avec son enfant. Et si on lit le psaume 103, le verset 13, on y retrouve le même thème de cette compassion d'un père avec son fils. Et c'est même un chant que l'on chante parfois, « Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Et dans ce verset, on comprend bien qu'un père à compassion de son fils, parce que d'abord, il l'aime d'un amour inconditionnel. Si j'aime pas, j'ai pas de compassion. La preuve, c'est que dans ma vie, quand je reprends ce que je disais tout au début, quand je vois qu'il y a tant de morts en Suisse à cause de la Covid, ben voilà, moi c'est un fait. Je ne connais pas ces gens, je ne les aime pas, je n'ai pas de compassion. Non, pour moi, c'est une information. Mais quand j'aime vraiment, alors quelque chose se passe en moi. Cela ne lui servirait à rien d'avoir compassion pour son fils si cette compassion restait à l'état d'émotion. Ah, oh, j'ai compassion pour toi, mon fils. Puis c'est tout, puis il retourne à ses champs, puis il laisse son fils en plan. Non, le père va agir pour le bien de son fils. Il va l'accueillir, il va le rétablir, il va faire la fête parce que son fils revient. Et dans ce même verset, à combien plus forte raison on comprend que Dieu le Père a compassion de toi parce qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Et cela ne lui servira à rien d'avoir compassion pour toi si cette compassion restait à l'état d'émotion. Ainsi, Dieu veut agir pour ton bien. Dieu a compassion de toi. Il t'accueille dans sa maison. Il fait la fête quand tu reviens à lui. Et la grande question vient maintenant, celle que vous redoutez tous. J'espère que vous ne la redoutez pas trop. Est-ce que chacun de nous a cette compassion biblique? C'est quand même une drôle de question. Parce que ça remet en cause nos actions, mais d'abord notre amour. Et ce docteur de la loi avait bien compris que le premier commandement, c'était d'aimer Dieu, et le deuxième, son prochain. Et ça nous remet un petit peu dans des circonstances où on revient à la base de la vie de disciple. Parce que si ma compassion ne débouche pas sur une action concrète envers la personne en besoin, alors je dirais, c'est comme, pour paraphraser 1 Corinthiens 13, c'est comme un airain qui résonne, ça fait du bruit, puis après c'est fini, puis il n'y a plus rien. Ce que la personne elle a besoin, c'est de compassion, pas de pitié. La compassion, c'est une souffrance de l'âme, c'est une souffrance du corps même, face à un besoin d'une personne qui ne concerne pas directement, mais dont je suis directement concerné. Parce que l'amour de Dieu habite en moi, et parce que l'amour de Dieu habite en moi, et parce que je suis concerné par les besoins de mon prochain, eh bien ça va aboutir à un résultat pratique envers ce prochain qui souffre. Comme le bon samaritain, nous allons croiser des gens blessés par la vie, des gens meurtris, des gens désabusés, ou alors des gens malades, ou des gens dans la détresse. Qu'est-ce qu'on va faire? Franchement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va détourner le regard comme tant d'autres, ignorer ce que nous voyons, continuer à endurcir notre cœur? Eh bien, non. Non. Parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes porteurs du message de Jésus-Christ, on est appelé à lui ressembler. C'est lui, Jésus, notre modèle. Et c'est grâce à lui en nous que nous faisons la différence dans la vie de notre prochain, au travers de notre amour, au travers de notre compassion. Alors, je repose ma question, ai-je encore cette valeur qu'est la compassion, ou est-ce que humblement, je dois reconnaître que j'ai été appauvri, que j'ai besoin de retrouver ou de retourner à la banque céleste pour retrouver cette valeur en disant, Seigneur, ce matin, j'ai besoin de retrouver cette compassion, j'ai besoin de retrouver cet amour pour mon prochain. J'ai tellement eu pitié pour les gens. Aujourd'hui, j'aimerais que mes entrailles se remuent et puis que je puisse faire quelque chose, je puisse faire la différence dans une vie ou dans une autre. Et à la réponse de Jésus, cet homme de la loi qui avait bien répondu, c'est celui qui a exercé la miséricorde, Jésus dira, tu as bien répondu. Va et fais de même. Amen. Alors on va prier. Tu es le Dieu de compassion. Et cet attribut qu'elle tient, c'est cette essence qu'elle a tienne, tu es un Dieu compatissant. Dans notre conversion, tu nous l'as transmise. Et nous devenons des êtres compatissants. Et souvent, Seigneur, nous avons fermé les yeux, détourné le regard, parce que cela impliquait qu'on perde notre confort personnel, qu'on sorte de notre zone de confort. Mais tu nous dis que celui qui est compatient est aussi un homme, une femme humble, qui s'oublie lui-même et qui devient serviteur, servante des autres. Comme tu étais ce roi serviteur, nous voulons aussi marcher à ta suite, Seigneur, faire comme toi. Et ce matin, par ton Saint-Esprit, nous te prions de nous remplir de compassion. Que quelque chose se passe dans notre corps, Seigneur. Que nos entrailles qui ont été verrouillées par notre dureté puissent de nouveau être ouvertes. Et que tu puisses agir en nous. Que tu puisses être cet homme, ce Dieu, Seigneur, qui nous fait réagir à cette compassion comme toi tu aurais réagi. Aide-nous à être sel de la terre. Aide-nous à être lumière du monde. Aide-nous à souffrir avec. Aide-nous à être compatissants, remplis de compassion. Amen.